Bella figlia dell'amore, schiavo son te vezzi tuoi.
Mystique d'Occident, une émission présentée par Hélène. Aujourd'hui, nous parlons du Cantique des Cantiques, ce poème magnifique dans les œuvres sacrées de la Bible. Et nous avons choisi ce texte parce que justement, il ferait le pont entre nos émissions que nous avons faites sur les Pères du désert, ces premiers grands ermites et mystiques de l'Orient. Donc ce Cantique des Cantiques fait le pont entre ces mystiques d'Orient et les mystiques d'Occident dont nous allons vous parler ces jours-ci, pendant quelques mois. Et nous en sommes au passage où l'épouse dit à l'époux « Je vois mon bien-aimé qui vient, qui franchit les collines, qui se tient derrière le mur, qui regarde par la fenêtre et qui nous épie par les treillis. » Et nous allons voir maintenant que lui répond l'époux. Quel est son appel ? J'entends la voix de mon bien-aimé qui me dit « Lève-toi, mon aimé, ma toute belle, et viens, car voici l'hiver passé. La pluie a cessé, elle s'en est allée. » Lorsqu'il apparaîtra, nous dit Origène, tu te diras, mon bien-aimé répond, il dit « Lève-toi, viens, ma toute proche, je t'ai frayé la voie, j'ai rompu les filets, viens donc à moi, ma toute proche. Lève-toi. Viens, ma toute proche, ma toute belle, ma colombe. Pourquoi dit-il, lève-toi, pourquoi hâte-toi? J'ai enduré pour toi la rage des tempêtes. J'ai supporté les flots qui devaient t'assaillir. Mon âme est devenue triste jusqu'à la mort à cause de toi. Je suis ressuscité des morts. Après avoir brisé l'aiguillon de la mort et dénoué les liens de l'enfer. C'est pourquoi je te dis, lève-toi et viens, ma toute proche, ma toute belle, ma colombe, parce que voici que l'hiver est passé. La pluie s'en est allée et les fleurs ont apparu sur la terre. Ressuscité d'entre les morts, j'ai réprimé la tempête, j'ai ramené la tranquillité. Et parce que dans l'ordre de la chair, je suis né d'une vierge et de la volonté de mon père, et parce que j'ai progressé en âge et en sagesse, les fleurs ont apparu sur la terre. Le temps de la taille est arrivé. La taille, c'est la rémission des péchés. Il est dit en effet, tout rameau qui demeure en moi et porte du fruit, mon père le taille, pour qu'il porte des fruits plus abondants. Et donc des fruits, et tout ce qui est infructueux en toi sera enlevé. Le temps de la taille est arrivé, le roucoulement de la colombe s'est fait entendre sur notre terre. Ce n'est pas sans raison que dans les sacrifices On prenait une paire de tourterelles et deux petits de colombes. Ils s'équivalent et jamais on n'énonce séparément une paire de colombes seulement, mais une paire de tourterelles et deux petits de colombes. Or, la colombe, c'est l'Esprit Saint. Mais l'Esprit Saint, lorsqu'il énonce de profonds et grands mystères, de ceux-là que beaucoup ne peuvent connaître, l'Esprit Saint est désigné par le vocable de tourterelle, c'est-à-dire de cet oiseau qui repose toujours au sommet des montagnes et au faîte des arbres. Dans les vallées, au contraire, et dans ce qui ne dépasse pas le niveau des hommes, c'est la colombe qui est prise comme figure du Saint-Esprit. Et enfin, lorsque le Seigneur a daigné assumer une nature humaine, est venu sur terre, tandis qu'il y avait beaucoup d'hommes pécheurs près du Jourdain, l'Esprit Saint ne s'est pas transformé en tourterelle, mais il est devenu colombe, oiseau plus doux, pour demeurer plus près de nous, à cause de la multitude des hommes. À Moïse, par exemple, il est apparu sous la forme d'une tourterelle. De même, à chacun des prophètes qui se sont retirés sur les montagnes et dans les déserts, pour y recevoir la parole de Dieu. Le roucoulement de la colombe s'est fait entendre sur notre terre. Le figuier pousse ses figues vertes, nous dit encore le cantique. Écoutez la comparaison prise du figuier. Dès que ses rameaux deviennent tendres et qu'il pousse ses feuilles, sachez que l'été est proche. L'oracle divin veut nous annoncer ici que après l'hiver et après les tempêtes des âmes, la moisson approche. Le figuier, dit-il, a poussé ses figues vertes. Les vignes sont en fleurs et ont donné leur odeur. Elles éclosent en fleurs. Le temps de la vendange viendra et il y aura du raisin. Nous abordons à présent la dernière page que nous livre Origène sur le Cantique des Cantiques. Après cette page, nous parlerons des homélies qui nous sont transmises par Grégoire de Nice. Donc voici la dernière page d'Origène. Lève-toi, viens, ma toute proche, ma toute belle, ma colombe. Ce que nous avons exposé plus haut, c'est l'épouse qu'il disait, sans que les jeunes filles l'entendissent. Elle était seule à entendre l'époux, mais nous, nous voulons entendre aussi les paroles de l'époux qui parle à l'épouse. Lève-toi, viens, ma toute proche. Il n'appelle pas les jeunes filles et ne dit pas « Levez-vous », mais « Lève-toi, viens, ma toute proche, ma toute belle, ma colombe, et viens, ma colombe dans le creux du rocher. » Moïse aussi est placé dans le creux du rocher pour voir Dieu par derrière. Ceci est une allusion à la grande vision de Moïse sur le Sinaï, lorsque Dieu lui dit « Quand ma gloire passera, je te mettrai dans le creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. » Ceci est dans l'Exode. Dans le creux de l'avant-mur. Viens d'abord à ce qui est devant le mur et ensuite tu pourras entrer là où est le mur du rocher lui-même. Montre-moi ta face. Jusqu'au jour présent, de pareilles choses sont dites à l'épouse, mais elle n'osait pas encore contempler face à face la gloire du Seigneur. Maintenant qu'elle est ornée et apprêtée, on lui dit « Montre-moi ta face ». Sa voix n'était pas encore assez douce pour qu'elle mérite qu'on lui dise « Fais-moi entendre ta voix ». Mais quand elle a appris à parler « Tais-toi Israël et écoute », nous dit le Deutéronome. Donc, quand elle a appris à parler et qu'elle a quelque chose à dire, sa voix est devenue douce à l'époux, selon cette parole prophétique. « Que mon discours devienne doux. » Alors l'époux lui déclare « Fais-moi entendre ta voix, parce que ta voix est douce. » Si tu ouvres la bouche pour le Verbe de Dieu, l'époux te dira « Ta voix est douce et ta face est belle. » C'est pourquoi, levez-vous et prions Dieu qu'il nous fasse devenir dignes de l'époux, Verbe, sagesse, Christ Jésus, à qui est la gloire et la royauté dans tous les siècles des siècles. Amen.
Thank you.
Découvrons ensemble à présent la pensée et les magnifiques homélies de Grégoire de Nyssa sur ce Cantique des Cantiques. Grégoire de Nyssa vécut dans à peu près la même période que Origène. Il est mort en 314 et on nous dit qu'Origène écrivit son homélie sur le Cantique en 240. Donc ils sont à peu près contemporains. Donc, pour Grégoire de Nyssa, il y a trois points importants dans le Cantique des Cantiques. Trois points qui émergent, qui sont le devenir, l'image et l'étreinte. Le devenir, c'est-à-dire le passage de l'amour charnel à l'amour spirituel. L'image, c'est-à-dire le miroir de l'âme qui n'est pas un espace clos mais une transparence au divin. Et l'étreinte du Christ et de son épouse, la colombe. Une petite introduction sur la pensée de Grégoire de Nyssa. Lorsqu'il commente l'œuvre de création des six jours, il a soin de noter qu'il faut entendre non pas à la lettre, mais dans un sens spirituel ces mots « et Dieu dit » de la Genèse. Le logos prononcé par Dieu n'est autre que le logos immanent à toute chose, si bien que la voix de Dieu est le chant des cieux qui célèbre l'éternel. La technique du créateur du monde est la force vivante, immanente au monde. Une force en évolution, la dynamique du verbe. Ce verbe immanent, intérieur aux choses, fait du monde un poème substantiel. Voyons à présent, entrons maintenant directement dans le Cantique des Cantiques. Le devenir, ou donc la progression de l'amour charnel à l'amour spirituel. Ce qui distingue les esprits créés des réalités corporelles, c'est que leur horizon débouche sur l'infini. Tandis que le temps des choses corporelles est cyclique, limité par le temps. Ce qui donne son infinitude au mouvement de l'esprit, c'est qu'il est conscience de soi, possession de soi. Confluence de l'origine et de la fin. Mais finalement, en tant que mouvement, il est jaillissement toujours nouveau de Dieu vers Dieu. La créature n'adhère au beau que dans la mesure où elle participe sans cesse à ce qui est meilleur. Il existe donc un double devenir, l'écoulement horizontal dans le temps et le battement vertical de l'aile de l'âme vers Dieu. Les deux se conditionnent mutuellement et forment ensemble le mouvement fondamental de l'esprit créé. Mouvement qui doit perdurer dans l'éternité. Jamais l'âme n'atteindra la perfection dernière, car elle ne touchera jamais sa limite. Le bien premier, en son essence, est illimité. La communion d'être avec lui, pour qui s'en rassasie, doit également être sans limite et capable de recevoir toujours davantage. Cette vie matérielle et transitoire des corps, qui se déroule en un mouvement éternel, possède la force de l'être en ce sens précisément qu'elle ne cesse jamais de se mouvoir. Elle est comme un fleuve qui poursuit son cours, toujours dans le même lit, mais ce n'est jamais la même eau à la même place. La substance de cette vie se modifie dans son mouvement, dans son écoulement, et accueille sans cesse dans ce passage ininterrompu des signes contraires. Il lui est impossible d'arrêter ces changements. S'arrêter, ce serait aussitôt cesser d'exister. L'âme est une note de cette harmonie, elle est bercée par les rythmes de l'univers, elle n'est que trop portée à confondre cet infini clôturé de limites avec l'infini sans limites auquel elle est ordonnée. Si l'âme réduit son désir aux limites du monde, elle retombe dans le rythme des contraires. Elle oscille du désir à l'écœurement, du désir à la satiété. Nous retrouvons ici une pensée très forte que nous avons évoquée avec les Pères du désert. L'infini que fournit le monde ressemble au jeu des enfants qui s'amusent dans le sable. La joie d'avoir construit s'éteint en même temps que la joie de construire. Le sable s'écroule et laisse sans trace la construction bâtie à grand-peine. Toutes les tensions de l'âme sont en rapport mutuel d'opposition. Elles débouchent l'une dans l'autre et se limitent mutuellement. Entre toutes ces contradictions, il n'est pas de rémission durable. Il n'existe qu'une seule issue, transformer l'angoisse des contraires qui proviennent de l'extérieur du corps ou bien de l'intérieur de l'âme, transformer cette angoisse en deux ailes qui nous transportent en un mouvement ininterrompu jusqu'à Dieu. L'aile de l'âme est l'amour, qui seul connaît l'équilibre entre le trop et le trop peu, qui s'élève au-dessus du vaste domaine des contradictions terrestres pour se hâter là où il n'est plus ni rassasiement, ni écœurement, où le comblement ne brise pas l'élan, où le désir demeure entier dans la jouissance. Cette béance du désir constitue toujours l'essence la plus profonde de l'être créé. Vouloir étreindre la beauté toujours plus. Là se trouve la perfection de la nature humaine. Dans l'échec du concept, dans la désespérance de son être limité, dans l'impuissance à faire sauter les murs du cachot de sa finitude, l'homme découvre son Dieu. Le sens ultime du créé, il faut le chercher non point dans son mouvement vers Dieu, mais bien plus dans le mouvement de Dieu vers nous. Notre indigence pour le trouver n'est pas un terme, mais une béance où Dieu s'épanche. Voyons à présent ce que Grégoire veut nous dire en parlant de l'image. Il nous dit que le mouvement existentiel de l'âme ne la replie pas sur elle-même, mais la projette vers Dieu. Le miroir n'est pas un espace clos, mais une transparence au divin de toute la substance créée. Lorsque le Christ nous dit « Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu », ça ne signifie pas que Dieu se manifeste comme un objet, un spectacle. Il est une présence divine qui brille dans la transparence éthérée du cœur. Il est frappant que partout où Grégoire de Nyssa parle du miroir de l'âme, la désespérance cède la place à une humilité silencieuse. La contemplation dans le miroir n'est qu'un substitut de la vision face à face. Et tout le commentaire du Cantique des Cantiques est porté par une pulsion unique, sortir, échapper au huis clos de la finitude de l'esprit. La prochaine fois, après cette introduction, nous entrerons directement dans les homélies de Grégoire de Nyssa sur ce Cantique des Cantiques.
C'était les mystiques d'Occident, une émission présentée par Hélène.